Nous voici au Vallon des Maillans, entouré de forêts, fleurs, parfums de flore. Nous sommes ici derrière l'hôpital Nord et à quelques minutes du cœur de Saint-Antoine. Agnès Maillard et Louis Dufay nous conduisent vers l'une de leurs ruches. On y cause alors de production, d'organisation sociale des abeilles, de liens avec l'environnement et de miel des quartiers nord de Marseille.
Il est en haut, il n'est pas tout contre la maison, il est pas quoi.
Pourquoi on est habillé en blanc plutôt qu'en noir ou en jaune ou en vert?
Parce que les couleurs sombres et les vêtements plus chauds attirent les abeilles et les rend agressives. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc on a toujours des habits clairs quand on peut pour aller sur un rucher.
Moi j'ai une théorie, c'est que les abeilles attaquent les mammifères principalement dans les orifices, ce qui est le plus sensible. La bouche, les oreilles, les yeux, et tout ça c'est sombre. Donc le blanc, c'est pas ce que, le blanc et le clair d'ailleurs, c'est pas ce qu'elle vise en premier.
Pourquoi vous avez choisi au départ de travailler ou d'avoir un lien avec les abeilles?
Ah ben, je pense que c'est un truc Madeleine, c'est que j'adore le miel et j'en ai toujours mangé. Et depuis que je suis haut comme ça, et notamment une fois chez moi, ma mère est arrivée, normalement elle achetait du miel assez bon marché, genre miel de tournesol qu'elle a acheté chez un paysan. Et une fois elle est arrivée avec un miel de lavande. C'était Monsieur Roboul, apiculteur à Puget-Théniers, miel de lavande du col d'Alos. Et c'était absolument fantastique. Et j'ai toujours rêvé de faire un produit de ce genre. Et maintenant, je fais un miel de lavande qui est probablement assez voisin de ce que faisait Monsieur Roboul.
C'est une activité occupante ou c'est un
hobby?
Non, là, c'est un hobby, mais nous, c'est plus qu'un hobby. Hein. Ça nous occupe, disons, à mi-temps. Hein. Et c'est très saisonnier. Là, en cette saison, ça nous occupe beaucoup. Parce qu'on fait le tour de nos ruchers, il faut les visiter une fois par semaine, en gros. Donc, ça dure un mois ou un mois et demi. Voilà, on arrive au rucher.
Qu'est-ce que tu portes dans ta main droite?
Ça, c'est l'enfumoir. Instrument indispensable de l'apiculteur. Il y a deux instruments indispensables.
L'enfumoir.
C'est l'enfumoir et le lève-cadre.
Ça n'existe pas dans le dictionnaire.
L'enfumoir, ça n'existe pas. Dans le dictionnaire, ça dépend. Dans la correction des logiciels de Microsoft, ça n'existe pas. Mais il y a des dictionnaires où ça existe. Et alors ça sert à décoller, gratter, lever les cadres. Et ça, l'enfumoir, ça essentiellement, ça brouille les signaux d'alerte des abeilles. Et les abeilles, quand il y a un danger, elles se communiquent le danger par des phéromones. Et la fumée brouille ces phéromones d'alerte. Voilà, c'est... Après, il y a des explications, mais qui sont complètement fumeuses et qui ne sont pas avérées. Fumeuse, c'est le cas de le dire. Sur le fait de dire que, comme il y a de la fumée, ils pensent que c'est un incendie, alors ils se gorgent de miel pour pouvoir partir. Mais c'est faux, parce qu'on a examiné que la quantité de miel engorgé... ingéré par les abeilles au moment de l'ouverture d'une ruche, il ne variait pas selon qu'on utilisait de la fumée ou pas. Donc...
Qu'est-ce que tu commences à faire, Agnès?
Je ne veux pas que tu te fasses piquer.
Alors, j'ai enlevé le toit de la ruche.
Merci. De toute façon, on a une particulièrement tranquille.
Donc là, la ruche n'est pas encore ouverte puisqu'il y a le couvre-cadre. C'est une planche, en gros, c'est une planche en bois par-dessus. Mais le toit, c'est pour rendre imperméable, hein. Ça protège de la pluie. Et là, on a une ruche donc qui est sur deux corps où il y a du nid de couvain dedans. Donc il y a du couvain, la reine pond sur ces deux corps-là. Ici, il y a une grille à rennes au-dessus de ces deux corps, parce qu'on travaille en langstroth. Et là, on a mis une grille à rennes qui empêche la reine de monter. Et donc, en principe, quand elle ne monte que du miel. Pas en principe, même si c'est sûr.
Non, c'est pas en principe, elle ne monte que du miel. Mais des fois, elle ne monte rien.
D'ailleurs, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose en haut.
Combien elles sont, là, environ ? Dans cette ruche-là ?
Actuellement.
Plusieurs dizaines de milliers.
Oui. Ça varie entre 20 000 et 70 000. Voilà. Une ruche, on en a eu quelques-unes. Bon,
l'hiver, il y a moins. Il y a 5 000 abeilles au plus creux de l'hiver.
Là, vous avez choisi d'ouvrir une ruche plutôt pacifique ou plutôt agressive ?
Plutôt pacifique.
Plutôt pacifique. Mais elles sont pacifiques pratiquement toutes ici.
Les plus turbulentes ou agressives sont où ? Un peu plus loin ?
Voilà.
Non, elles ne sont pas sur notre terrain. Elles sont chez des gens qui nous ont prêté un emplacement. Enfin, prêté. Loué un emplacement, puisqu'on... En fait, nos ruches, elles sont toutes sur des endroits tout à fait officiels.
Officiel.
Et on paye, quand c'est des particuliers, on paye une redevance en pot de miel.
Donc là, chez vous, vous en avez combien de ruches ?
Là, actuellement, on en a...
7, 8, 1, 2, 3, 4, 5...
On a 6 ruches plus 2 essaims. On a 8 colonies.
Est-ce que les pacifiques produisent moins ou autrement que les agressives ?
Non, c'est pas corrélé. Ça se raconte chez les apiculteurs. Ouais, j'ai une souche agressive, mais tant pis, je la garde parce qu'elle fait beaucoup de miel. Voilà. Mais tu as des souches agressives qui font pas de miel. D'accord. Et tu as des souches douces qui font plein de miel.
Plein de miel, tout à fait.
Bah, j'ai jamais remarqué la corrélation. Mais effectivement, ça se dit, hein.
Alors là, on a du miel, regardez.
Un cadre de rive.
Un cadre de rive, c'est-à-dire un cadre de bord de la ruche, qui est plein de miel. Et c'est du miel pas operculé. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment du miel qu'elle rentre maintenant.
Regardez, là, on le voit qui brille. Là. Prends-le, pour que tu te rendes compte déjà du poids. Fais gaffe, essaie de pas écraser les abeilles. Tu vois le poids ?
C'est assez lourd. Hein.
Ouais. C'est lourd, alors que la cire, ça ne pèse rien. Mmh. Le cadre en bois, il est très fin. Et tout le poids, en fait, là-dedans, c'est le miel.
Là, on est à quel... en cette période-là ? On est à quel stade ?
C'est là où il y a le plus de couvains dans les ruches. Cette partie du printemps, ça explose.
Je vois que tu le manipules sans gants, toi.
Oui, celle-là, oui. Mais très souvent, je mets des gants. Hein.
Voilà, le couvain.
Quand je travaille, je mets des gants, moi. Mais là, c'est pas la peine.
Avec une ruche, vous produisez combien de miel ? Ou elles produisent, enfin, vous coproduisez combien de miel ?
Écoute,
miel.
On conduit à notre compte une quarantaine de colonies. Et cette année, pour donner un exemple, on a fait une tonne d'œufs.
Trois.
Une tonne trois, oui, enfin bon. Voilà, c'est un ordre d'idée d'une année, d'une bonne année. Pour nous, ça a été une bonne année. Hein.
Mais en Provence, tu peux le poser par terre. En Provence, les rendements ne sont pas très très forts. Par contre, le miel est réputé à juste titre. Il est quand même souvent beaucoup plus goûteux que des miels de champs de tournesol, de colza ou de seige.
J'imagine que d'année en année, votre miel, vous vous dites... Peut-être d'ailleurs,
voilà
non.
La reine.
Où elle est-elle ?
Alors, tu dois
Cherche-la.
La
voir.
Avec la tête verte.
Voilà.
Voilà.
Mais elle a la tête verte d'une part, mais d'autre part, regarde, les ailes arrivent au milieu de l'abdomen. Ouais. Alors que regarde les autres abeilles, elles arrivent à la fin de l'abdomen. Ouais. Donc elle est nettement plus longue. Ça, c'est une cellule royale que je n'ai pas retirée quand j'ai visité hier.
Il n'y a rien dedans.
te fais pas piquer.
Non, il n'y a rien dedans. C'est, voilà. C'est juste
voilà,
une amorce.
Vous avez vu la reine, c'est quand même, elle est jolie. Elle est de l'année dernière, celle-ci, puisque chaque année a sa
et
couleur.
Regardez ce qu'elle fait. Elle est en train de chercher un endroit pour pondre. Elle, va mettre, elle met la tête et les antennes dans les alvéoles vides.
Là, elle va passer de l'autre côté.
Donc, elle est particulièrement paisible. Et d'ailleurs, si on attend avec un peu de bol, on va la voir pondre devant nous.
Alors, est-ce que vous pouvez l'améliorer d'année en année, le miel? Ou est-ce que c'est une question que vous ne vous posez pas? Quand vous le goûtez, est-ce qu'il y a des manières de dire « j'aimerais qu'il soit un peu différent l'année prochaine »
Oui, mais alors là, c'est essentiellement les emplacements. Hein.
Oui, ça c'est...
Parce que sinon, le miel, c'est sa définition même, c'est un strict produit des abeilles. C'est pas... On mélange pas des trucs, c'est pas une préparation... C'est la production des abeilles. Par conséquent, c'est elles qui déterminent à quoi ça va ressembler selon ce qu'elles ont butiné. Donc voilà. Alors effectivement, on peut se dire, ben, cette année, notre miel de romarin, il n'est pas très beau parce qu'il était mélangé. On va essayer de trouver un endroit où il n'y a vraiment que du romarin. C'est ce qu'on fait pour la lavande, hein, par exemple. Mais sinon, on ne peut pas améliorer. Ce n'est pas comme le vin. Le vin, c'est une préparation. La vinification, c'est un truc très important. Nous, non. C'est entièrement... Le miel qui sort là, on l'extrait et on le mange. On n'y fait rien du tout.
Est-ce que vous apprenez des choses des abeilles que vous pourriez... ou que vous avez transposées sur l'organisation sociale entre les humains?
On aimerait bien.
Ah, c'est-à-dire, il y aurait des choses à...
Ah oui. D'abord, dans une ruche, on a beau appeler la mère la reine... c'est pas du tout une royauté et la reine ne commande absolument pas au reste de la colonie. Voilà. Elle obéit autant qu'elle commande. Chacun a son rôle. Et il y a une espèce de régulation qui se fait entre les différentes stades des abeilles, entre la mère qui est donc la seule qui pond, hein, et ses filles ouvrières, mais aussi ses fils qui sont les mâles. Et en fait, c'est autant les filles qui indiquent à la reine que c'est le moment de pondre que le contraire. Voilà. Donc voilà. Alors là, il y a quelque chose un peu d'une autogestion remarquable.
Et ça fonctionne. C'est l'anarchie. C'est la véritable anarchie. C'est-à-dire un organisme qui fonctionne sans... sans chef.
Mais ça demande beaucoup de sagesse, alors.
Je ne sais pas si on peut parler de sagesse chez les abeilles.
Non, je crois que c'est une nécessité. Hein, enfin, c'est organisé comme ça, c'est une nécessité. Bon, il y a quand même quelque chose qu'on ne leur envie pas. C'est que quand il y a une maladie, par exemple, qui touche une partie des abeilles, ses congénères ne les soignent pas. Les abeilles, elles sont expulsées quand elles sont malades. Voilà.
Ce qui est très fréquent chez les animaux. Hein. Voilà.
Et il n'y a que les humains qui, en principe, prennent soin de leurs vieux ou de leurs malades. En principe, je dis bien, parce que quelquefois, c'est... on oublie ce principe. Enfin.
C'est quoi la durée de vie d'une ruche?
Oh, ça peut être éternel.
Une colonie. Parce que la ruche, c'est ça, c'est le bois. Une colonie, c'est dans l'idéal, c'est éternel. C'est-à-dire que la reine se meurt et les abeilles créent une nouvelle reine et donc la colonie dure. Bon, bien entendu, c'est jamais vrai. À un moment, il y a un accident et la colonie meurt. Mais c'est pas... voilà. Par contre, la vie d'une abeille, c'est très très court. En été, c'est deux mois maximum, quoi. Environ 3 semaines entre l'œuf et la naissance de l'insecte parfait. Ensuite, 3 semaines à l'intérieur de la ruche. Et ensuite, 3 semaines de butinage à l'extérieur.
L'hiver, elles vivent plus longtemps. Elles vivent plusieurs mois. Ce qui semble indiquer que ce qui les fatigue le plus, c'est le butinage.
Le fait de le commercialiser, le miel, c'est une obligation, c'est un choix de votre part?
Ah oui, oui, c'est un choix, c'est une obligation. C'est une obligation, bien sûr, parce que avec, si tu as 40 ruches, tu ne vas pas manger la totalité de ta production. Et bon, voilà.
Et il faut quand même beaucoup d'argent.
Alors voilà, c'est que c'est qu'il y a un véhicule qui est dédié et qu'il faut, dans lequel il faut mettre du gasoil et qu'il faut entretenir. Il y a une miellerie, il y a tout un matériel assez important. Donc au début, si tu prends des ruches et tu te dis, je vais vendre le miel pour payer mes ruches. Et en gros, c'est ce qu'on fait. Bon, maintenant, on commence à dégager un peu de
bénéfices.
Mais pour se payer vraiment un salaire, il faut avoir au moins 200 ruches et les mener convenablement. Donc, c'est voilà. Nous, on a 40 ruches. Mais on n'attend pas après ça pour vivre, pour en parler. Et on le commercialise, volontairement au prix du marché, même si on choisit le prix plancher du marché, mais pour ne pas faire de mauvaise concurrence à des gens qui ont besoin d'en vivre. Voilà. Alors on préfère quelquefois offrir du miel, mais c'est un miel qui a une valeur. Voilà. Et on la dévalue pas, cette valeur.
C'est quoi vos circuits de distribution, de vente?
Hôtel du Nord. Hôtel du Nord, quelques commerçants en proximité. Notre caviste, qui a l'exclusivité d'ailleurs du miel, qui a l'appellation, qui a l'IGP Provence et qui vient d'ici. Et ça a été notre premier revendeur. Il a même attendu qu'on soit en position, en capacité de lui fournir du miel, sans faire affaire avec un autre apiculteur.
Oui, parce que Francis, il avait un
Francis le caviste.
Francis le caviste. Qui avait une... il avait un producteur à Virduron, un gars qui avait 85 ans, qui est mort. Et moi, je commençais à peine à faire de l'apiculture. Et il m'a dit, est-ce que tu peux me vendre du miel? Et bien, je lui ai dit, pour l'instant, j'en ai pas. L'année prochaine, j'en ai eu un peu. Et en fait, il a attendu. Il n'a pas cherché un autre fournisseur. Il voulait quelqu'un du coin.
Voilà. Et donc on a donc des commerçants et puis on fait des ventes, j'ai envie de dire, militantes où on enfin un peu d'ailleurs comme à Hôtel du Nord, puisqu'à Hôtel du Nord on ne le vend pas très cher pour qu'il y ait un bénéfice pour la coopérative. Et sinon on en vend par exemple dans nos familles syndicales et politiques, donc on en vend à la fête de l'UMA par exemple. Là on en vend beaucoup, la fête de l'UMA, du miel. On monte avec la voiture pleine de miel, avec 200-300 kilos de miel. C'est toujours une expédition. Et voilà. Et on passe 3 jours à faire l'article, à faire goûter le miel, à discuter avec les gens, à répondre aux questions. C'est notre... on s'en lasse pas. C'est notre plaisir. Parce qu'on se régale, hein. On se régale à prendre de la connaissance et à faire partager un peu tout ce qu'on sait des abeilles. On se régale en cette saison d'aller sur les ruchers, d'un rucher à l'autre, d'ouvrir les ruches, d'être là avec ce temps merveilleux et de regarder ce qui se passe dans la ruche, de regarder l'état du couvain, l'avancée et tout. Voilà, bon. C'est la partie très très sympathique du travail sur les ruchers. La partie moins sympathique, c'est l'hiver, quand il faut nettoyer les caisses, les gratter. Voilà, tout ça, c'est un peu fastidieux, mais enfin bon.
Parce que les cadres, on peut... certains apiculteurs professionnels, ils les jettent ou ils les revendent à des jeunes qui s'installent. Mais nous, on les nettoie. Et nettoyer, gratter les cadres, c'est un sacré boulot. On le fait... pas par souci d'économie, mais parce que c'est absolument lamentable de jeter du matériel qui peut servir pendant des décennies.
Louis a choisi, en s'installant, enfin en commençant l'apiculture, a choisi un nom pour nos ruchers. Et il a appelé nos ruchers Jardins et Garrigues. Et là, on est à la limite de la ville, puisque... passer le petit chemin qui est là en dessous de nous, puisqu'on est en hauteur, il y a le massif de l'Étoile qui commence. Et quand on a traversé cette petite bande de goudron, On peut marcher pendant des heures sans rencontrer ni maison ni goudron.
On va à l'eau ou à mi-mai par là.
Voilà. Donc, elles sont très attirées au printemps par le romarin qui pousse au-dessus de ces pins, là, sur le petit mont qui est au-dessus. Et donc là, d'ailleurs, elles y vont. On les voit, hein, on les voit qui partent par là.
Et puis on voit qu'elles rentrent avec le blanc sur le thorax.
Donc il y a beaucoup de romarins dans cette zone-là, mais il y a aussi beaucoup d'amandiers et plein de fleurs de jardin. Donc ça fait un miel qui est très varié, qui est assez doux, qui est assez consensuel, mais qui a beaucoup d'arômes. Voilà. C'est un miel de Provence.
C'est ça, mais pour être plus concret, une abeille fait, disons, de façon vraiment courante, utile, 2 km de rayon. Donc ça veut dire qu'elle elle va butiner à Saint-Antoine. Saint-Antoine, c'est à moins de 2 km de rayon, à l'hôpital. Et c'est un butinage utile. S'il y a une source majeure, une ressource majeure là-bas, elles y vont. Par exemple, il y a une zone à Saint-Antoine, au bord de Caravelle, où il y a plein d'amandiers. Je suis persuadé qu'elles vont butiner sur ces amandiers, par exemple. Et dans les jardins de l'hôpital, qui est tout près, c'est à moins d'un kilomètre à vol d'oiseau.
D'abeille.
À vol d'abeille.
Agnès Maillard et Louis Dufay et leur ruche Zé Abeille, une des activités de ces habitants accueillants du Grand Saint-Antoine et sociétaires de la coopérative Hôtel du Nord.